La définition du Beinoni. Donc on a justifié la définition du Beinoni qu'on avait dit avant. On a vu que le Beinoni, il avait un comportement identique à celui du tzaddik. Et donc maintenant, pour le terminer sur cette idée-là, on va en fait répondre à la question que plusieurs d'entre vous avaient posée. C'est que pour bien comprendre ce qu'est un Beinoni, il faut savoir aussi que la Gemara emploie parfois ce terme au sens figuré. Donc il faut faire la distinction entre le sens figuré du terme qui est employé par la Gemara et le sens propre du terme qui est employé par la Kabbalah et par la Chassidut. Donc la Gemara, lorsqu'elle parle d'un jugement entre deux personnes, elle va nous dire qu'une des deux personnes est Tzadik Bedino. Il est sorti vainqueur du jugement. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur sur son comportement dans sa globalité, c'est un jugement de valeur sur le problème spécifique qui est soumis au Beddin. Donc, cet homme-là, il est Tzadik pour l'affaire qui est jugée par le Beddin et uniquement pour cette affaire-là. Par contre, il n'est pas un tzaddik dans son comportement général. Donc ça veut dire que pour le terme de tzaddik, il faut distinguer le sens propre qui est tzaddik, ce qu'on a dit avant, celui qui n'a pas de mal dans sa personnalité, celui qui n'a pas la perception du mal, celui qui ne peut faire que des mitzvot. Ça, c'est le sens propre du terme. Et puis, il y a le sens figuré du terme, c'est-à-dire tzaddik dans une action particulière, ce qui ne préjuge pas du tout de tout ce qu'on peut faire pour toutes les autres actions par ailleurs. C'est valable exactement de la même façon pour le terme de Beinoni. Beinoni au sens figuré, donc tel qu'il est employé par la Gemara, Beinoni ça veut dire moyen. Donc un homme Beinoni dans la Gemara, donc le Rambam il reprend la terminologie de la Gemara. Donc un homme Beinoni d'après la Gemara, c'est un homme qui fait moitié de mitzvot, moitié de averot. Par contre, au sens propre, le Beinoni, c'est celui qui a été défini par le Tanya, c'est-à-dire celui qui ne fait que des mitzvot, dont le comportement est strictement identique à celui du tzaddik, bien que, à la différence du tzaddik, il ait le mal en lui, et donc le fait qu'il ne fasse pas le mal, fait qu'il a un comportement strictement positif, c'est le résultat d'une lutte constante. Donc le Tanya nous dit, Veha de Amrinan Be'alma, on dit en général, donc le terme en général ici, doit être traduit par dans la Gemara. La Gemara, c'est la partie la plus générale de l'étude. Donc c'est le terme qui est employé dans la Gemara, c'est Mertza al Mertza, Mikre Beinoni, peut trouver dans la Gemara, le mot Beinoni employé pour désigner quelqu'un qui fait moitié de mitzvot et moitié de averot. De même, Rov Zchouyot, si quelqu'un a un nombre de mitzvot plus important que le nombre de ses averot, alors à ce moment-là, Mikre Tzadik, il s'appelle Tzadik dans la Gemara, donc, ou Shem Amushal. Dans ce cas-là, c'est un sens figuré de ce terme. Ça n'est pas l'emploi au sens propre. Leinyan Schar Veonesh, quelle est la base de cet emploi figuré? Quel est le lien qu'on peut faire entre le sens propre et le sens figuré? C'est que le sens, au sens propre, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a un mérite dans tout ce qu'il fait, donc qui mérite une récompense dans tout ce qu'il fait. Et au sens figuré, celui qui sort vainqueur de son jugement a acquis un mérite et mérite une récompense dans ce jugement particulier. Donc il y a bien un point de comparaison entre les deux sur la rétribution. C'est ce point de comparaison sur la rétribution qui permet de rapprocher leur état. Donc la différence fondamentale, c'est que le Beinoni au sens du Tanya est Beinoni 24 heures sur 24, alors que le Beinoni de la Gemara est Beinoni dans la situation particulière pour laquelle il est jugé. Des filles chenidou nachar roubo, puisque le principe général dans la Gemara, c'est que l'homme est jugé selon l'aspect majoritaire de son comportement. Donc ça, c'est spécifique à la Gemara. En conséquence, mikre tzadik bedino, on peut l'appeler tzadik dans son jugement, et uniquement dans le cadre de son jugement, mais achar chez zoche badin. Puisque dans ce jugement tel qu'il a été présenté au Beit Din, il est vainqueur. Ava l'inyan amitit shematoa. Par contre, si on cherche la signification du Beinoni, non pas au sens figuré, mais au sens propre, ben ma'ala shel ma'alat ou madrigot halukot tzadikim ou Beinonim, si on reprend l'inventaire qu'on a fait avant des différents niveaux, des différents statuts qu'un homme peut avoir dans le service de Dieu. Et donc, si on cherche qu'est-ce que c'est qu'un tzadik dans le service de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un beinoni dans le service de Dieu, Amrou Razal, les Chachamim nous disent tzadikim yetzertov shoftan, un tzadik est quelqu'un qui ne fonctionne que en fonction de son yetzertov. Donc, ça veut dire, l'idée que le Tanya met en avant ici, c'est qu'il peut y avoir une différence entre la partie révélée de la Torah et la partie profonde de la Torah. On peut imaginer un terme qui n'a pas la même signification dans l'un et dans l'autre. Et on a vu hier, Shivim Panim la Torah. Il y a 70 interprétations de chaque idée de la Torah. Donc on peut imaginer une certaine interprétation qui soit liée à la partie profonde de la Torah, une certaine interprétation qui soit liée avec la partie révélée de la Torah. Alors, il faut savoir que même lorsque deux explications sont en apparence contradictoires, en fait, elles peuvent malgré tout se compléter. Ça veut dire que les Chachamim peuvent nous expliquer quelque chose à deux stades différents. Lorsqu'on veut comprendre une explication de la Torah, on est obligé de la comprendre dans son contexte, et c'est uniquement son contexte qui permet de la comprendre vraiment. Par exemple, il y a une machloquette sur plusieurs machloquettes. Il y a une des machloquettes qu'il y a sur la venue du Mashiach, il y a une machloquette entre le Rambam et le Ramban. Dans la Torah, on nous dit Vegarzev in Keves, le loup va habiter avec l'agneau, les bêtes sauvages vont devenir des animaux domestiques, etc. Donc le Ramban nous dit tout ce qui est écrit dans la Torah, il faut le prendre à la lettre. Tout ça va se réaliser exactement comme la Torah nous le décrit. Si on regarde le Rambam, lui, il nous dit, le Rambam qui est pratiquement un contemporain du Ramban, le Rambam, il nous dit « Akol Mashal Umlitza ». Tout ça, ce sont des images. La Torah emploie une image pour dire que quand le Mashiach viendra, la paix va régner dans le monde. Mais donc, le Rambam nous dit « Il ne faut pas interpréter les choses au sens littéral et penser que réellement le loup va arrêter d'être une bête sauvage, il va devenir une bête domestique ». Donc ça veut dire, a priori, le Rambam et le Ramban, ils ont des positions opposées. On pourrait penser qu'ils disent deux choses différentes. Ramban nous dit, quand le Mashiach va venir, la nature du monde va changer, de sorte que la bête sauvage va devenir un animal domestique. Le Rambam, il dit non, pas du tout. Ça, c'est une image. Alors Rabbi nous explique que si on veut comprendre la différence entre le Rambam et le Ramban, on doit replacer chacun dans son contexte. Le Ramban, le but du Ramban, c'est d'expliquer le sens des versets de la Torah. Le Ramban connaissait la Kabbalah, et le Ramban, il peut avoir recours à la Kabbalah pour pouvoir expliquer un verset de la Torah. Par contre, le Rambam, son but, c'est de trancher la halakha. Le Mishneh Torah, c'est un livre de halakha, et donc on ne peut comprendre le Mishneh Torah que dans le sens de la halakha qui est tranchée. Donc, le Rambam se pose la question, est-ce que on est obligé de penser que quand le Mashiach reviendra, la nature du monde va changer. Et donc, quand le Rambam nous dit « Akol, Mashal, Umitza », tout ce que la Torah nous dit, c'est une image, le Rambam veut nous dire, d'après la Halakha, on n'est pas obligé de penser ça. Si la vérité, c'est que quand le Mashiach viendra, il y aura effectivement un changement de la nature du monde. Néanmoins, dit le Rambam, si quelqu'un n'admet pas l'idée que quand le Mashiach va venir, le monde entier va changer, alors on ne peut pas penser que cet homme-là s'est écarté du judaïsme. Par exemple, le Rambam, il définit Yud Gimel Ikarim, 13 principes fondamentaux de la foi. A priori, on pourrait penser, dans la Torah, il y a 620 mitzvot, 613 mitzvot de la Torah, et 7 mitzvot des Chachamim. Donc ça veut dire 13 principes. Pourquoi on veut privilégier le 13 principes par rapport à tous les autres? Alors donc, ce que le Rambam il nous dit, le Rambam il dit par exemple, je suis obligé de croire que Mashiach va venir. D'un autre côté, la Torah elle me dit, il y a 7 cieux qui existent. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une idée de la Torah. Néanmoins, on voit que ces deux idées de la Torah, elles n'ont pas le même poids. Si par exemple, quelqu'un me dit, moi je considère qu'il n'y a pas 7 cieux, il y en a 8. Alors il se trompe, comme une erreur. La Torah nous dit qu'il y a 7 cieux. Néanmoins, quelqu'un qui fait l'erreur de penser qu'il n'y en a pas 7, mais il y en a 8, bien qu'il soit dans l'erreur, on ne peut pas penser que son erreur est suffisamment importante pour dire qu'il s'est écarté totalement du judaïsme. Par contre, quand la Torah me dit le Mashiach va venir et je dois attendre chaque jour sa venue, si quelqu'un dit moi je ne crois pas au Mashiach, moi je ne pense pas qu'il va venir, alors lui, il s'est écarté totalement du judaïsme. Donc ça veut dire que, bien qu'on est obligé d'admettre toutes les mitzvot de la Torah, on voit bien que chaque mitzvah n'a pas le même poids. Donc, lorsque le Rambam explique une idée dans le Mishneh Torah, le but du Rambam, c'est pas comme le Ramban d'expliquer le sens des versets ou d'expliquer ce qui va se passer effectivement dans le monde quand le Mashiach viendra. Le Rambam, il tranche la halakha en disant, voilà le minimum de ce que tu dois admettre, parce que si tu n'acceptes pas ce minimum, si tu n'admets pas cette idée-là, alors tu t'écartes du judaïsme. Donc vous voyez que on peut arriver à avoir deux idées complètement opposées dans la Torah, et en réalité, quand on regarde plus profondément, on s'aperçoit que l'opposition est uniquement apparente, parce qu'on peut comprendre cette opposition par le fait que chaque explication a été donnée dans un contexte différent. C'est pour ça que d'un côté, on nous dit que lorsque le Mashiach viendra, il n'y aura pas un second matin de Torah. Ça veut dire que dans le matin de Torah qui a eu d'ores et déjà été inclus également l'enseignement du Mashiach. Et quand même, on trouve un verset qui nous dit « Torah chadasha meiti tetsé ». Nouvelle Torah va sortir de moi. À ce moment-là, les Chachamim nous expliquent que ça veut dire « Torah chadasha meiti tetsé ». Ça veut dire « Chidush Torah meiti tetsé ». Un nouveau dévoilement, un aspect nouveau de la Torah va être dévoilé qui, pour l'instant, n'a pas encore été dévoilé dans le monde. Donc, d'un côté, l'enseignement du Mashiach, il a déjà été potentiellement donné. D'un autre côté, actuellement, on n'a pas la possibilité de le percevoir. Et c'est seulement quand Mashiach viendra que cette possibilité sera donnée. Donc on peut avoir plusieurs paliers de la Torah qui se dévoilent à plusieurs moments différents. C'est pour ça que on trouve un pasouk dans la Torah, on dit « Machatzti va'ani erpa ».« Machatzti », j'ai coupé en deux, « va'ani erpa » et je vais guérir la coupure. Ça veut dire que actuellement la Torah nous a été donnée de telle façon qu'on a une partie révélée de la Torah et une partie cachée de la Torah. Tel qu'on étudie la Torah maintenant, on peut parfois penser qu'il y a contradiction entre les deux. Et donc, « Machatzti », j'ai coupé la Torah en deux, mais « Va'ani erpa », je vais guérir cette coupure. Et donc, quand le Mashiach viendra et qu'on aura le Chidush Torah que le Mashiach va amener, alors c'est à ce moment-là qu'on pourra voir que la séparation n'était qu'une séparation apparente, mais qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre toutes les idées de la Torah. C'est pour ça que il y a un verset, on dit « Gal enai, dévoile mes yeux, vehabita nifleot mitoratecha » et je pourrai voir les merveilles de ta Torah. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que « Gal enai, découvre mes yeux, Gal c'est lag, lag c'est lag baomer. Donc lag baomer, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la première fois qu'on a mis à côté de l'enseignement caché de la Torah, son enseignement, de l'enseignement révélé de la Torah, son enseignement caché. Donc c'est le premier pas qui a été fait pour qu'on puisse recoller ensemble les deux morceaux de la Torah. Donc ça veut dire que la préparation de la venue du Mashiach, c'est le fait de remettre ensemble les deux parties de la Torah. Alors on voit que l'Admour HaZaken, dans un premier temps, il est venu essentiellement pour expliquer la partie profonde de la Torah de telle façon qu'on puisse le comprendre avec notre intellect à nous. On ne voit pas tellement chez l'Admour HaZaken, on ne voit pas non plus chez l'Admour Emtsaï, la synthèse entre les deux parties de la Torah. L'Admour HaEmtsaï a développé l'enseignement de son père, mais on ne voit pas qu'il a mis ensemble les deux parties de la Torah. Le premier qui a commencé à mettre ensemble les deux parties de la Torah, c'est le Tzemar Tzedek. On voit que dans les Mahamarim du Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek fait systématiquement appel aux notions de la partie révélée de la Torah. Maintenant, on voit que le point culminant de cette façon d'étudier, c'est les Sichot et les Mahamarim du Rabbi. Chez le Rabbi, au-delà de tout ce qu'on a vu chez tous les Rabbis précédents, le Rabbi explique systématiquement chaque notion de Chassidut en faisant appel à la Gemara ou de façon générale à la partie révélée de la Torah. Donc c'est le Rabbi qui, pour la première fois, systématise la manière d'enseigner la Torah qui va être celle du Mashiach. Autrement dit, il y a eu Matan Torah de telle façon que les deux parties de la Torah ont été séparées. Et ensuite, on a dévoilé, on a développé parallèlement les deux enseignements, les deux parties de la Torah, de telle façon que les deux parties puissent aller dans le même sens. Et donc, le Rabbi prépare le dévoilement de l'enseignement du Mashiach par le fait que lui, il fait que les deux choses se croisent. Donc dans son enseignement, on arrive à faire la synthèse entre les deux, et même lorsqu'il y a une contradiction apparente, alors on arrive à justifier la contradiction en montrant qu'elle est seulement apparente. Donc vous voyez que c'est exactement cette technique que vous avez ici. On essaye de distinguer un sens figuré et un sens propre, et si on accepte la différence entre le sens figuré et le sens propre, alors on s'aperçoit que les deux choses ne sont pas contradictoires et que la définition du tzaddik telle qu'elle est dans la Gemara et la définition du tzaddik telle qu'elle est dans le Tanya ne se contredisent pas, mais elles sont simplement prises de deux points de vue différents. Tchenema, c'est pour ça que le verset nous dit « Velibi chalal bekirbi » mon cœur est détruit en moi. Donc le Tania cite les mots de Rashi. Rashi explique ce verset des Tehillim. Il dit chez Enlo Yetzerara, il n'a plus de Yetzerara, qui hargo betaanit, parce qu'il a tué par le jeûne. Donc on a vu déjà l'explication. Donc dans ce verset, c'est David Amener qui parle. David Amener, il est tzaddik veralo. On a vu déjà plusieurs fois que le tzaddik veralo dans son comportement n'a aucune différence entre lui et un tzaddik betovlo, c'est-à-dire que le mal qui se trouve dans sa personnalité est en quantité suffisamment infime pour qu'il n'intervienne pas du tout dans sa personnalité. Donc le tzaddik betovlo, le tzaddik veralo n'ont pas de perception du mal, ni l'un ni l'autre. Néanmoins, David Ameler à titre personnel, il était gêné par le fait d'avoir une quantité infime de mal dans sa personnalité. Donc il a décidé de jeûner et il a multiplié les jeûnes au point que les jeûnes ont effacé la trace du mal qu'il y avait dans sa personnalité. Pourquoi est-ce que c'était important qu'il fasse ça, David Ameller? Pourquoi est-ce que David Ameller peut se poser la question, a priori, un tzadik veralo, un tzadik vetovlo, l'un comme l'autre, ils ont la même perception du bien uniquement. Pourquoi est-ce que c'était important que David Ameller, il efface totalement la trace du mal qu'il y a dans sa personnalité? Alors on nous explique que David Ameller, il aurait dû être mort-né. Il aurait dû mourir à sa naissance. Et donc on s'aperçoit que David Ameller, il a vécu 70 ans. Les 70 ans qu'il a vécu, ce sont 70 ans que Adam Harishon lui a offert. Adam Harishon, il est mort à 930 ans et il aurait dû vivre 1000 ans. Donc il a vécu 930 ans parce qu'il a offert 70 ans de sa vie à David Ameller. On trouve une autre explication, un autre midrash qui nous dit que c'est les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont offert leur vie à David Ameller, c'est-à-dire que normalement les Avot auraient dû vivre 175 ans tous les trois. Donc si vous faites le compte de ce qu'ils ont vécu, le compte de l'âge des trois par rapport à 175, vous allez retrouver 70 ans. Alors on explique dans la Chassidout que les deux explications ne sont pas contradictoires, encore une fois, mais qu'elles se complètent. Les 70 ans qui ont été offerts à David Ameller par Adam Harishon, c'est Chaim Chitzonim, la partie superficielle de sa vie. Les 70 ans qui ont été offerts à David Ameller par les Avot, c'est Chaim Pnimim, la partie profonde de son existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David Ameller, il représente dans le monde Malchut de Hatzilut. Vous savez que dans chaque monde, il y a 10 sphirot. Les 10 sphirot, ce sont les 10 instruments que Dieu utilise pour se dévoiler dans le monde. Et puis, parmi les 10 sphirot, il y a une sphira qui a un statut particulier, c'est la sphira de Malchut. Le Malchut, c'est la royauté, donc la royauté, c'est David Ameller. La sphira de Malchut, c'est la seule et unique sphira qui a la possibilité de quitter le monde dans lequel elle se trouve pour descendre vers un monde inférieur. Toutes les autres sphirot se trouvent dans un monde particulier et elles restent dans le monde dans lequel elles sont. Par contre, Malchut a la capacité de quitter le monde dans lequel elle se trouve et de descendre dans un monde inférieur. Ce qui veut dire que toutes les lumières que nous attirons dans le monde par nos mitzvot, elles descendent par l'intermédiaire de Sfirat HaMalchut. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde par sa lumière. C'est comme ça qu'on peut comprendre le premier commentaire de Rashi qu'il y a sur le tout début du Chumash. Rashi nous dit une explication qui est en apparence surprenante. Rashi nous dit tous les premiers versets de la Torah, il faut les lire comme une parenthèse. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, lorsque c'était le début et que Dieu a créé le ciel et la terre, Veharetz haita tohu vavohu, que la terre était désolation, etc. Alors à ce moment-là, Vayomer Elokim yehi or vayehi or. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi? Rashi veut que tout le début de la Torah soit une parenthèse et que, en fait, le véritable début de la Torah, la véritable introduction de la Torah, c'est Vayomer Elokim, Yehi Or, Vayehi Or. C'est parce que le matériau de construction du monde, c'est la lumière. La matière première à partir de laquelle Dieu a construit le monde, c'est la lumière. Au point que dans la Kabbalah, on nous dit que la matière, c'est itavut, or, itavut avec un haïn, c'est un épaississement de la lumière, une solidification de la lumière. Comme ça que le monde a été créé. Donc, puisque le monde a été créé par la lumière de Dieu, alors le moyen de perpétuer le monde, c'est de rajouter en permanence dans le monde de la lumière. C'est de cette façon-là que le monde peut se maintenir. Lorsque vous allumez un feu avec du bois. Ensuite, lorsque le bois commence à se consumer, si vous voulez maintenir le feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter du bois. Donc, c'est ce qui a permis d'allumer le feu au début, qui permet de le maintenir par la suite, une fois que le feu commence à se consumer. C'est exactement la même chose dans la création du monde. Le monde a été créé avec la lumière de Dieu, et pour que le monde se perpétue, il faut rajouter en permanence de la lumière dans le monde.
Le monde a été créé par la parole.
Ça, c'est autre chose. La parole, ça veut dire que Dieu prononçait des paroles. C'est comme un architecte qui donne des ordres à ses ouvriers. La parole, c'est pas la matière première. Hein? C'est spirituel, c'est le spirituel qui est à l'origine de la matière, mais ça, c'est uniquement le plan de la création. Maintenant, quand on parle d'éléments de base de la création, ce qui constitue la matière qui nous entoure, c'est la lumière de Dieu. Donc, pour que ce monde se maintienne, on a besoin de rajouter dedans de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, elle vient par nos mitzvot. Comme ça qu'on peut comprendre au moment de Matan Torah, on dit, Dieu dit, Yim yikablu torati mutav ve'im lav achzirem le tohu vavohu. S'ils acceptent ma Torah, c'est bien, sinon je les fais retourner au néant. Donc c'est pas une punition, c'est pas une menace de Dieu. Attention, vous acceptez ma Torah, sinon je vous punis tous, je vous ramène tous au néant. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. En fait, ce que Dieu veut dire, c'est le monde a été créé par la lumière de Dieu. Pour que le monde puisse se maintenir, il a besoin de la lumière. Le moyen de faire descendre la lumière dans le monde, c'est l'accomplissement des mitzvot. Donc, si les juifs acceptent les mitzvot, alors ils se donnent les moyens de descendre la lumière dans le monde, et à ce moment-là, le monde se perpétue. Si les juifs refusent la Torah, s'ils n'accomplissent pas les mitzvot, alors ils ne font pas descendre dans le monde la lumière qui permet au monde de se perpétuer. À ce moment-là, le monde retourne au néant. Ce n'est pas une punition, c'est la conséquence directe du choix qui a été fait. À partir du moment où on se refuse le bois qui va permettre de raviver la flamme elle va s'éteindre. Ce n'est pas une punition, c'est la réalité des choses. Si le feu s'éteint, il s'éteint. Donc ce n'est pas une punition, ce n'est pas une menace de Dieu. Donc pour que le monde puisse exister, il faut faire descendre en permanence la lumière de Dieu dans le monde. Comment est-ce que la lumière de Dieu descend dans le monde? Par l'intermédiaire de la Sphira de Malchut, parce que c'est la seule et unique Sphira qui a la possibilité de descendre plus bas que le monde d'Atzilut. C'est pour ça que, par exemple, le vendredi soir, quand on dit le Eshet Ra'il, donc Eshet Ra'il, d'après la Kabbalah, quand on dit Eshet Ra'il, on le dit pour Sfirat HaMalchut, pour Malchut et Atzilut. Ne dites pas vos épouses, parce que c'est pour elles, il ne faut pas les détromper, mais d'après la Kabbalah, on dit Eshet Ra'il pour Sfirat HaMalchut, qui descend à ce moment-là dans le monde. Pour ça, on dit Vatiten Teref Lebeta. Elle donne à manger à ses enfants. Donc Teref, la gematria de Teref, c'est 288 plus le kolel, ça fait 289. 288, c'est le nombre de nitsutsot, le nombre de parcelles de Dieu qui ont été introduites dans le monde. Donc Batiten Teref Leveta, elle donne à manger au monde entier. C'est Sfirat HaMalchut qui va introduire dans chaque objet matériel la lumière dont l'objet matériel a besoin pour exister. Donc, celui qui matérialise Sfirat HaMalchut dans le monde, c'est David HaMelech. David HaMelech, il représente le Sfirat HaMalchut dans le monde. Les grandes tzadikim ont la possibilité de se substituer aux Sfirot. C'est pour ça que, par exemple, à propos de Avram Avinu, le Midrash nous dit Amra midat ha-chesed lifnei ha-kadosh baruch hu, l'attribut de bonté a dit devant Dieu, Miyom heyot Avram ba'aretz, depuis le jour où Avram existe dans le monde, lo hutzrachti la'asot mlachti, je n'ai pas eu besoin de faire mon travail, she'are Avraham omed u'meshamesh bimkomi, parce que c'est Avram qui me remplace. Donc, Avraham vit physiquement dans le monde, il reçoit des invités chez lui à la maison, et de cette façon-là, il représente dans le monde matériel le Sfirat HaMalchut tel qu'elle est dans le monde spirituel. De la même façon, David HaMelech règne dans le monde et il représente Sfirat HaChesed, pardon, pour Avraham. Donc David HaMelech vit physiquement dans le monde, il représente Sfirat HaMalchut dans le monde. Donc Sfirat HaMalchut, c'est ce qui fait descendre la lumière de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que c'était important que David HaMelech, qui représente Sfirat HaMalchut, il n'ait pas en lui la moindre trace de mal. Donc, comme la vie qu'on lui a offert, la vie que Adam Harishon et les Avot lui ont offert, ont fait de lui un tzadik veralo, alors il fallait qu'il supprime la trace du mal, et donc il a choisi de le faire par le jeûne. Pourquoi est-ce que on lui a offert sa vie? C'est parce que dans le Zohar, on dit à propos de Sfirat HaMalchut, on dit let le migarme klum. Sfirat HaMalchut ne possède pas de lumière propre. Chesed, elle a une lumière de bonté. Gvura, elle a une lumière de rigueur. Chaque haute Sfira a une certaine coloration et une lumière qui va dans un certain sens. C'est-à-dire ça ne veut pas dire que la lumière elle-même est modifiée, mais ça veut dire le Tzemar Tzedek emploie une image pour nous faire comprendre comment les Sfirot orientent la lumière de Dieu dans un certain sens. Le Tzemar Tzedek nous dit, si vous mettez de l'eau dans un verre rouge, un verre teinté en rouge, alors vous regardez en transparence, vous avez l'impression que l'eau est rouge. Si vous prenez la même eau et vous la mettez dans un verre qui est teinté en bleu, alors vous avez l'impression que l'eau est bleue. Ça veut dire que l'eau c'est toujours la même, mais le keli dans lequel cette eau a été mise donne une certaine coloration, une certaine apparence à l'eau qui est à l'intérieur. De la même façon, la sphira elle donne une coloration à la lumière de Dieu telle qu'elle habille, elle s'habille dans le monde. Donc, la lumière de Dieu c'est toujours la même, mais si cette lumière de Dieu elle passe par la sphira de Chesed, alors elle va venir accomplir dans le monde un acte de bonté, la création du monde. Si cette lumière elle passe dans la sphira de Gvura, alors elle va venir accomplir dans le monde un acte de sévérité, le déluge. La lumière c'est toujours la même, mais c'est le chemin, le parcours de cette lumière avant d'arriver au monde qui va lui donner une coloration qui la prépare d'ores et déjà à ce qu'elle doit accomplir en étant dans le monde. Donc de la même façon que chaque sphira elle a sa coloration propre, la sphira de Malchut elle n'a aucune coloration. Donc la sphira de Malchut elle joue le rôle de collecteur de toutes les autres sphirotes, elle va collecter la lumière de toutes les autres sphirotes. Et elle va permettre à cette lumière de passer dans le monde suivant, puisque les autres sphirotes n'ont pas la possibilité de descendre dans le monde suivant. Donc dans la mesure où Sfirat HaMalchut n'a pas de lumière propre, mais elle ne fait que recevoir la lumière des autres sphirotes, de la même façon, David HaMelech était mort-né. Il est né de telle façon qu'il n'avait pas de vitalité propre, et donc il n'a eu que la vitalité que d'autres lui ont donnée. C'est de cette façon-là qu'il a pu représenter Sfirat HaMalchut dans le monde. Aval kol mi shelo higia le madregazu, si quelqu'un n'est pas arrivé au niveau de ne plus accomplir la moindre avera, si quelqu'un n'est pas arrivé au niveau de rejeter totalement le mal, Av chez Sruyotav Merubim Alavonotav, même si par ailleurs ses mérites sont infiniment plus grands que ses fautes, Eno Bemaalat Umadriga Tzadiklal, il peut en aucune façon être appelé un tzadik. Un tzadik, c'est nécessairement quelqu'un qui n'a pas la perception du mal, c'est-à-dire qui a une perception du monde différente de la nôtre. Ça veut dire, tu parlais tout à l'heure des 10 paroles de la création, la définition de la parole de Dieu, ce qui distingue la parole de Dieu de la parole de l'homme, c'est que la parole de l'homme s'envole au moment où elle a été prononcée. Ce qui veut dire que si quelqu'un vous parle, vous êtes obligé d'être présent à l'instant précis où cette parole est prononcée. Une seconde après, c'est trop tard. Et entendre ce qu'il vous raconte. À la différence de l'homme, la parole de Dieu, elle reste. Il y a un verset de Tehilim qui nous dit « Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim ». La parole de Dieu qui a été prononcée au moment des 10 paroles de la création se trouve encore maintenant dans l'air du monde. Et c'est parce que la parole de Dieu se trouve encore maintenant dans l'air du monde que le monde continue à exister. Si Dieu retirait sa parole, alors le monde retournerait au néant. Et c'est pour ça que on dit « Amechadesh betuvo becholyom tamid maase breshit » Dieu renouvelle en permanence la création. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu renouvelle en permanence la création? Ça veut dire que au premier instant de la création, Dieu a prononcé les 10 paroles. Et ensuite, à chaque instant de la création, Dieu fait en sorte que les 10 paroles restent à leur place. Le fait qu'à chaque seconde, Dieu intervient dans la création pour remettre les 10 paroles à leur place, ça fait que le monde continue à exister. S'il y avait un instant où Dieu ne reprononçait pas les 10 paroles, alors le monde retournerait immédiatement au néant. Ça veut dire, vous représenter, on peut employer une image simple, peut-être l'image d'un dessin animé. Un dessin animé, c'est des milliers d'images, toutes différentes les unes des autres. Et donc, ces milliers d'images, on arrive à les faire passer à une vitesse tellement rapide qu'on a l'impression du mouvement. En réalité, le mouvement qu'il y a dans un dessin animé, c'est uniquement une illusion d'optique. Puisque c'est considéré, si vous voyez qu'il y a un personnage qui bouge le bras dans un dessin animé, ça veut dire qu'il y a une image où il y a le bras comme ça, une image où il y a le bras comme ça, une image où il y a le bras comme ça. Et donc les images se succèdent à une tellement grande rapidité qu'on a l'impression du mouvement. Le mouvement est une illusion d'optique. En réalité, c'est des images qui sont toutes prises à l'instant T et qui se succèdent l'une après l'autre très rapidement. De la même façon, le monde n'a pas une existence continue. Le monde est recréé à chaque instant. Et c'est la rapidité de la succession des instants qui donne l'impression de la continuité dans le monde. Et donc, dans la Chassidoute, on nous dit que bien que le monde est recréé à chaque instant, alors à chaque fois, Dieu recrée le monde dans l'état où il était à l'instant précédent. Dans la Chassidoute, ça s'appelle Chidush Hayeshenot. Dieu renouvelle l'état ancien, l'état précédent. Donc, à chaque seconde, Dieu crée le monde, et à chaque fois, il le recrée dans l'état où il était à la seconde précédente. Et c'est parce que cette création se passe à une cadence très rapide qu'on a l'impression de la continuité dans l'existence du monde. En réalité, il n'y a pas continuité. Chaque seconde est une seconde de création. À chaque instant, Dieu recrée le monde. Et donc, si on pouvait imaginer un instant où Dieu ne recrée pas le monde, à ce moment-là, le monde retournerait immédiatement au néant. Et donc, comment est-ce que Dieu recrée le monde à chaque instant? Autrement dit, comment est-ce que Dieu reprononce les 10 paroles à chaque instant en fonction de la quantité de lumière que les Juifs ont accumulée pour pouvoir reprononcer les 10 paroles? Donc, il y a on alimente les 10 paroles de la création par le fait de rajouter en permanence la lumière qui va permettre à Dieu de les reprononcer. Donc ça, ça permet de répondre à la question que le, à la question que, qu'on pose dans la Chassidoute et que beaucoup de chokrim se posent. On se demande, est-ce que le monde existe réellement ou bien est-ce que le monde est une illusion d'optique ? Est-ce qu'on peut dire que le monde a une existence véritable ? Ou alors, est-ce qu'il faut dire que c'est uniquement une illusion d'optique ? Nous avons l'impression que le monde existe, c'est ce que nos yeux nous envoient comme message, mais le monde n'existe pas réellement. Et donc, la réponse à cette question, c'est que les deux sont vrais. Le monde est à la fois une existence véritable et une illusion d'optique. Ça veut dire que tant que Dieu reprononce les 10 paroles de la création, le monde existe réellement. Si on pouvait imaginer, si c'était écrit dans le scénario quelque part, qu'à un moment, Dieu arrêtait de prononcer les 10 paroles, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que le monde serait détruit au moment, à l'instant où Dieu cesse de prononcer les 10 paroles. Il faudrait dire qu'au moment où Dieu a cessé de prononcer les 10 paroles, on aura établi rétroactivement que le monde n'a jamais existé. Donc le monde existe réellement tant qu'il existe. Si on pouvait imaginer à un moment sa disparition, alors sa disparition serait rétroactive. Je trouve un exemple dans la halakha qui nous permet d'illustrer cette idée-là. On voit que par exemple, dit dans la Gemara Gittin que si quelqu'un donne un acte de divorce à sa femme en lui disant Arezé Gitter, voilà ton guet, à la condition que tu ne vois plus jamais tes parents de ta vie. La Gemara nous dit un tel guet, il n'est pas valable. Parce que un guet, dans la Torah, ça s'appelle Sefer Kritout. Un acte de coupure. Donc, pour que le guet soit valable, il faut qu'il y ait coupure entre l'homme et la femme. Par contre, si le mari dit à sa femme, je te donne un guet à la condition que tu ne vois pas tes parents pendant 30 jours. Un tel guet, il est valable. Parce que il s'appelle Sefer Kritout. Si, au bout de 30 jours, si elle a tenu la condition, alors au bout de 30 jours, il y a effectivement une coupure entre le mari et la femme. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Un homme, il donne à sa femme un guet en lui disant « Je t'interdis de voir tes parents pendant 30 jours. » Elle tient la condition et pendant les 30 jours qui suivent, elle ne voit pas ses parents. Donc, puisque la condition a été tenue, le guet est valable. Le guet est valable à partir de quand? Non pas à la fin des 30 jours, mais le jour où le mari l'a donné. Donc le guet est valable depuis le premier jour, mais j'ai besoin d'attendre 30 jours pour voir que la validité du guet est depuis le premier jour. Donc de la même façon ici, le monde a été créé pendant les 6 jours de la création, mais j'ai besoin d'attendre Matan Torah pour savoir que la création du premier jour était une véritable création. Bien que Matan Torah, c'est 2248 ans après la création du monde, mais si au bout de 2248 ans, les Juifs n'avaient pas accepté la Torah, à ce moment-là, on aurait établi rétroactivement depuis le premier jour que le monde n'a jamais existé. Donc vous voyez qu'il peut y avoir un long laps de temps pendant lequel on a l'impression d'une existence véritable, et quand même on arrive à un terme où on s'aperçoit que rétroactivement, ce qui semble avoir existé n'a jamais existé réellement. Donc ça c'est la réponse à la question. Tant que le monde existe, il existe réellement, mais si on pouvait imaginer qu'à un certain moment, Dieu ne répète pas les 10 paroles de la création, alors ça permettrait d'établir que depuis le premier instant, le monde n'a jamais réellement existé et qu'en fait, le monde a toujours été une illusion d'optique. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est la reine Amourou Razal du Midrash. Donc c'est parce que l'explication définitive qu'il faut retenir, c'est que le tzaddik, c'est celui qui n'a pas du tout de perception du mal, parce que toute autre définition n'est qu'un emploi figuré de ce terme. Alors, Amrou Razal b'Midrash, les Chachamim nous disent dans le Midrash, Ra'a Kadosh Baruch Hu b'Tzadikim Shehem Mu'atim. Dieu a vu que les Tzadikim étaient peu nombreux. Amad v'Shatlan b'Chol Dor Vador. Dieu a fait en sorte d'implanter des Tzadikim dans chaque génération. Donc ça veut dire, au sens le plus simple, que si on appelle tzaddik quelqu'un qui fait une majorité de mitzvot par rapport à ses averot, alors la Gemara nous dit afilu poshe Israël mleim mitzvot kerimon. Poshea, ça veut dire quelqu'un qui fait des averot en conscience, quelqu'un qui délibérément commet une avera. Donc la Gemara nous dit poshe Israël, même quelqu'un auquel on peut donner le titre de poshea, mleim mitzvot kerimon, il est plein de mitzvot, comme une grenade, elle est pleine de graines. Et donc on choisit précisément l'exemple de la grenade, parce que la grenade, elle a 613 graines, donc ça veut dire même un juif qui en apparence a l'air d'être très loin, il est en réalité rempli de mitzvot. Donc si on peut admettre que le terme de tzaddik désigne quelqu'un qui a une majorité de mitzvot dans son comportement, alors on peut intégrer la majorité du peuple juif dans cette définition-là. Donc, si le Midrash nous dit « Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux », ça veut dire qu'on ne peut pas considérer comme tzadik quelqu'un qui fait une majorité de mitzvot, mais qui, à côté, fait également quelques averot. Donc, nécessairement, un tzadik, c'est celui qui n'a pas du tout la perception du mal. Ce qui veut dire, effectivement, que la majorité du peuple juif se trouve dans la catégorie de rachat. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'au sens du Tania, le rachat, c'est pas péjoratif, c'est pas un terme de dénigrement. Le rachat, c'est celui qui sait qu'il a encore du mal en lui. Et vous voyez que dans cette notion de rachat vetovlo, on arrive à une immense diversité. On arrive véritablement à mettre dedans, on pourrait dire, 99% du peuple juif. Avec l'exception du tzaddik qui n'a aucune perception du mal, et avec l'exception du rachat vers Allo qui ne fait que le mal et qui n'a aucun remords, qui ne regrette pas du tout ce qu'il fait, ce qui est pratiquement impossible, même le poché Israël, leim mitzvot kirimon, même quelqu'un qui est très loin, à un moment ou à un autre, il regrette ce qu'il fait. Donc ça veut dire que vous avez une immense catégorie qui s'appelle Racha Vetovlo, dans laquelle il y a à une extrémité un juif qui est pratiquement parfait, mais qui de temps en temps peut faire quelque chose qui n'est pas entièrement la volonté de Dieu, et à l'autre extrémité, quelqu'un qui a un comportement complètement étranger à la Torah, mais qui, une fois de temps en temps, va venir à la synagogue à Yom Kippour, ou une fois de temps en temps, va lui proposer de mettre les tefillin, il ne va pas le refuser, etc. Et donc, toute cette catégorie s'appelle Racha Vetovlo, tout ça, c'est une catégorie extrêmement générale. C'est celui qui a conscience d'avoir encore le mal en lui dans une proportion plus ou moins importante, et donc d'avoir une mission de parfaire ce mal. De ne pas se suffire de l'état dans lequel il est maintenant, mais de rechercher à s'améliorer. Par contre, donc, le tzaddik, lui, il n'a aucune perception du mal. Et donc, le tzaddik, Dieu fait en sorte qu'il y en ait un dans chaque génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu fait en sorte qu'il y ait des tzaddikim dans chaque génération? C'est parce que le monde a besoin des tzaddikim pour vivre. Ça veut dire que on a vu tout à l'heure que le monde existe parce que on rajoute en permanence de la lumière de Dieu dans le monde. Alors curieusement, qui c'est qui rajoute cette lumière dans le monde? Ce ne sont pas les tzadikim, ce sont les rechaïm, parce que les rechaïm, au moment où ils accomplissent les mitzvot, eux, ils ont besoin de lutter contre le mal. Et c'est précisément cette lutte contre le mal qui dévoile la lumière de Dieu dans le monde. C'est écrit dans le Zohar, on dit « Kad it kafia sitra achra » lorsqu'on fait une action qui permet de repousser le côté du mal, alors « istalek ikara dekutcha brichu bekulu almin » la lumière de Dieu, la présence de Dieu se dévoile dans tous les mondes à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si toutes les mitzvot ont une définition objective qui est définie par le Shulchan Aruch, même si tous les juifs mettent les tefillines de la même façon, et dans la chassidoute on emploie une expression pour montrer cette idée-là, on dit les mêmes tefillines qui permettent à Moshe Rabbeinu d'accomplir la mitzvah, elles permettent aux juifs le plus simple d'accomplir la mitzvah. On ne voit pas qu'il y a des tefillines pour Moshe Rabbeinu et des tefillines pour le juif le plus simple. Tous les juifs mettent des tefillines strictement identiques. Il n'empêche que quand Moshe Rabbeinu met les tefillines et quand un juif simple met les tefillines, ils le font d'une manière complètement différente. De la même façon, lorsque deux juifs mettent les tefillines, un juif peut mettre les tefillines parce qu'il a été habitué à le faire, parce qu'il le fait depuis longtemps, parce que pour lui c'est devenu un acte naturel, parce qu'il n'envisage pas sa vie autrement qu'en mettant les tefillines. Et on peut imaginer un autre juif qui n'a pas l'habitude de mettre les tefillines. Et pour lui c'est une lutte. Chaque matin, il est obligé de lutter contre lui-même pour mettre les tefillines parce que c'est une habitude qu'il a des difficultés à acquérir. Alors, celui qui a le plus de difficultés, au moment où il met les tefillines, il va dévoiler beaucoup plus de lumière que celui qui n'a pas de difficultés. Ça veut dire que le dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde est strictement lié à la difficulté qui est liée à la mitzvah. Donc, le tzaddik, lui, il a une mission complètement différente. Il y a deux catégories de tzaddikim. Il y a des tzaddikim qui ont une mission par rapport au monde. Tzaddikim cachés, tzaddikim nistarim. C'est des hommes qui ont une relation directe avec Dieu, qui échappe à notre compréhension. Donc, imaginez qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas la même perception des choses que nous. On a dit tout à l'heure que Dieu a créé le monde par 10 paroles, que ces 10 paroles se trouvent en permanence dans la création. Ça veut dire que la table qui est devant nous, elle a en elle actuellement la parole de Dieu. Si cette parole de Dieu se retirait de la table, elle redeviendrait néant immédiatement. Lorsque nous, on voit cette table, on voit qu'un bout de bois. Le tzaddik qui regarde la table, il voit de ses yeux la parole de Dieu qui se trouve dans l'intérieur de la table. Donc, son libre arbitre ne fonctionne pas de la même façon que nous. Son service de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Donc on peut imaginer un tzaddik caché, tzaddik nistar, qui lui a une mission directe, une relation directe avec Dieu dans des termes qui ne sont pas accessibles à notre compréhension et qui ne sont pas non plus spécifiés par la Torah, parce que ce n'est pas un enseignement pour tous. Ce n'est pas quelque chose que nous, on peut faire. C'est une relation directe entre Dieu et lui, et donc comme lui, il est tzaddik, comme lui, il n'a pas la perception du mal, alors il sait ce que Dieu attend de lui. Il sait quelle est la mission spécifique que Dieu lui confie. Et puis, il y a une deuxième catégorie de tzaddikim, c'est les tzaddikim qui ont une mission envers le peuple juif. Ceux qui sont chargés de guider les autres, ceux qui sont chargés d'aider les autres dans leur service de Dieu. Donc, eux, ils ne luttent pas contre leur mal personnel, mais ils luttent contre le mal des autres. C'est pour ça que même à propos du Mashiach, on dit « être lienu nasa ou machoveinu sivlam ». Notre maladie à nous, c'est lui qui en souffre, et nos douleurs, c'est lui qui les éprouve. Donc le tzaddik, c'est celui qui lutte contre le mal des autres. Un rachat, quelle que soit sa catégorie de rachat, il lutte contre son mal personnel. Le tzaddik, il lutte contre le mal des autres. Et donc, pour que dans chaque génération, il puisse y avoir quelqu'un qui joue le rôle de tzaddik par rapport au peuple juif, qui vient en aide aux autres, alors le Midrash nous dit, comme les tzaddikim étaient peu nombreux, donc rappelez-vous qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui est tzaddik depuis sa naissance, donc c'est des neshamot de tzaddikim, qui sont tzaddikim depuis l'instant de leur naissance. Alors, Amad Veshatlan Bechol Adorot, Dieu a fait en sorte que dans chaque génération, il y ait des tzaddikim qui puissent venir en aide à tous les autres. Et ensuite, Tania conclut en disant que Moshe Katou, Vetzadik Yesod Olam. Et là, avec ces mots-là, le Tania introduit encore une troisième catégorie de tzaddik. On a vu les tzaddikim nistarim qui ont une relation directe avec Dieu, avec une mission qui leur est propre et qui nous est imperceptible. On a vu les tzaddikim révélés qui ont une mission vers le peuple juif et qui doivent aider les autres dans leur service de Dieu. Il y a une troisième catégorie, c'est tzaddik yesod olam, le tzaddik sur lequel le monde entier repose. Et ça, c'est le tzaddik ador, ça c'est le chef de la génération, ça il y en a un seul dans chaque génération. Donc lui, c'est celui qui a le poids de toute la création, c'est celui qui supporte tout ce qui existe dans le monde entier. Tout doit passer par lui, c'est lui qui prend les décisions. C'est pour ça que, par exemple, les chassidim avaient l'habitude de dire « Erev Rosh Hashanah », le Tzemar Tzedek faisait un seder à Pétersbourg. Pétersbourg, c'est la capitale de la Russie. Ça veut dire que pendant toute l'année, le tsar va prendre des décisions, et le tsar va imaginer que quand lui prend des décisions, c'est lui qui prend ses décisions. En réalité, le tsar prend ses décisions parce que le Tzemar Tzedek les a déjà prises à Lubavitch à la veille de Rosh Hashanah. Ça, c'est la définition de tzaddik yesod olam. Le tzaddik unique dans la génération qui, lui, étend son influence sur toute la génération. Donc ça, c'est une catégorie particulière dans laquelle il peut y avoir un seul tzaddik dans chaque génération. Pour ça, la Torah nous dit « Dabar echad ledor, velo shne dabarim ledor ». Il peut y avoir un seul tzaddik représentatif de toute la génération, pas deux. C'est pour ça que Rashi nous dit à la fin de la Torah, lorsque le Moshe Rabbeinu est niftar et que Yoshua devait le remplacer, alors Rashi nous dit « Shabbat shel diosgi haita ». Là, il s'est passé une exception dans la création, et Dieu a fait en sorte que pendant ce Shabbat-là, il y ait deux tzadikim qui dirigent le monde, Moshe Rabbeinu et Yoshua. Parce que la transition de Moshe Rabbeinu à Yoshua était tellement grande, Moshe Rabbeinu était tellement haut, il s'est adressé directement à Dieu, il a reçu la Torah directement à Dieu. Donc pour que le peuple juif puisse s'attacher à Yoshua, il fallait qu'il y ait quelques instants où Moshe Rabbeinu et Yoshua soient ensemble. Donc là, on a fait une exception à la règle en ayant deux tzadikim ador dans la même génération. Donc c'est la seule exception qu'on connaît. Ça veut dire que dans chaque génération, dans la catégorie de tzadik yesod olam, on a à chaque fois un seul tzadik. Ça va être là.